vous remercie de votre présence. Je vais commencer par une petite réflexion dont j'ai fait part d'ailleurs hier à Paul Audy, qui est, en regardant le programme, on s'aperçoit que tout ce qui relève de la philosophie française est associé au pouvoir, au désir, au sexe, à l'amour. Et puis côté allemand, il y a la violence, la mort. C'est comme ça, c'est caricatural, c'est ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on conçoit l'axe franco-allemand, les roses d'un côté et Thanatos de l'autre? Est-ce que ça va fonctionner comme ça? Est-ce que notre président est du côté érotique et Merkel du côté du Thanatos? Je ne sais pas. Mais bref, donc je ne voudrais pas pousser cette image trop loin et enchaîner, évidemment, on est en plein dedans là déjà, sur le désir et Deleuze. Alors, vraiment, j'ai beaucoup hésité à savoir comment présenter la chose en ne sachant pas du tout à qui je parlais. Donc, je suis entouré d'éminents philosophes, surtout après l'intervention de Bernard Arthour, qui portait sur Foucault et le pouvoir. J'aurais eu très envie de faire quelque chose sur critique et désir, aussi bien chez Foucault que chez Deleuze, et intégrer ces dimensions de pouvoir qui est tellement importante aussi dans la pensée du désir chez Deleuze. Mais je crois que je vais me rabattre sur quelque chose de moins ambitieux, en ne sachant pas, encore une fois, quel est ce public que j'ai devant moi. Donc pour ceux qui savent déjà tout ce dont je vais parler, je vous prie de m'excuser par avance. Voilà. Alors évidemment, je crois que la discussion aussi nous permettra, si on veut approfondir tel ou tel aspect, de le faire, évidemment. Alors je vais commencer par une sorte d'introduction générale qui va en quelque sorte planter le décor, puis après je vais passer à la conception de Deleuze du désir. Alors, c'est très difficile de parler de Deleuze sans parler de Guattari, donc je vais parler de Deleuze avant tout, mais évidemment la présence de Guattari est indispensable à l'évocation de cette conception du désir. Et alors il y aura un petit moment technique, c'est presque inévitable en philosophie, qui portera sur le rapport de Deleuze à Kant. Voilà. Donc je me lance. Du fond de notre histoire nous parvient un lancinant et insistant refrain. Irrésistible et cause de tant de tourments, le désir serait la marque d'une profonde agitation, signe manifeste de notre imperfection. En effet, tout en constatant l'existence, et même en reconnaissant le caractère irréductible, on ne peut s'empêcher d'observer qu'il naît d'un manque aussi regrettable qu'inévitable. Et si l'on ajoute aussitôt qu'il vise avant tout sa satisfaction, et souvent se consume dans ce qu'on appelle le plaisir, on dit aussi que ce soulagement n'est jamais que temporaire et donc jamais véritablement satisfaisant. Insatiable, ballotté d'un objet à l'autre, le désir serait le ténébreux, l'inconsolable vagabond. C'est même ce qui le distinguerait du besoin que l'on peut, en droit, sinon en fait, toujours satisfaire. Aussi, par-delà telle pause, tel soulagement momentané, où il reprendrait son souffle, le désir aspirerait-il à une sorte d'idéal inatteignable? Oui, le désir a soif, mais, dit-on, d'un absolu qui toujours lui échappe, d'un objet fuyant qu'il ne saurait nommer, et que nul objet empirique ne saurait assouvir. Qui, mieux que Schopenhauer, a su évoquer les affres de cette condition humaine, qu'on pourrait dire évidemment trop humaine? Le désir, nous dit en substance Schopenhauer, dans Le monde comme volonté et représentation, est l'indice d'un manque, et ce manque est l'essence même de la vie humaine. Et puis, puisque tout désir naît d'un manque, il est inséparable d'un état de souffrance que l'on s'efforce naturellement d'apaiser. Aussitôt apaisé, cependant, il donne naissance à un nouveau désir qui, à son tour, occasionne une nouvelle souffrance. Ça, c'est le pessimisme de Schopenhauer. Mais que la volonté vienne à manquer, qu'une prompte satisfaction vienne à lui enlever tout motif de désirer, et le voilà tombé dans ce vide épouvantable qu'on appelle l'ennui. Le désir serait donc la force, ô combien cruelle, qui nous précipite dans les bras du monde, en quelque sorte, mais pour nous refuser l'accolade et le repos escompté. On évoquera peut-être alors avec Blanchot, je cite, « le tourment d'un désir qui se connaît seulement dans l'absence et à qui la présence n'apporte rien. Et si, partant de là, l'amour s'impose comme son expression suprême, c'est parce qu'il est le désir élevé à la seconde puissance, soit le désir de désir, ou bien encore désir du désir de l'autre. Ce qui le rend aussi doublement douloureux et doublement enivrant, comme Proust l'avait bien compris. Ne fait-il pas dire au narrateur de la recherche ceci à propos de son amour pour Albertine, et je cite Proust. C'était par conséquent évident, c'est une phrase courte pour Proust, mais tout de même assez longue. C'était par conséquent toute sa vie qui m'inspirait du désir, désir douloureux parce que je le sentais irréalisable, mais enivrant parce que ce qui avait été jusque-là ma vie, ayant brusquement cessé d'être ma vie totale, n'étant plus qu'une petite partie de l'espace étendu devant moi que je brûlais de découvrir, et qui était fait de la vie de ces jeunes filles, m'offrait ce prolongement, cette multiplication de soi-même qui est le bonheur. Fin de citation. Ce que l'on recherche par le désir, c'est ce débordement et cet élargissement de soi, ce soi qui est plus que moi. Mais cette quête est aussi vaine, puisque l'inquiétude qui y préside est inépuisable. Merveilleuse et désirable, Albertine ne l'est que tant qu'elle reste insaisissable. Aussitôt possédée et emprisonnée, elle devient ennuyeuse et le désir se voit contraint de trouver un nouvel objet sur lequel porter son dévolu. Notre désir, essentiellement jaloux, ça c'est toujours Proust qui parle, hein, ne trouve-t-il plus matière à se déployer? C'est notre amour lui-même qui meurt et l'ennui, cette attente sans objet, se répand, incommensurable. Je cite Proust à nouveau, « Je sentais que ma vie avec Albertine n'était pour une part, quand je n'étais pas jaloux, qu'ennui, pour l'autre part, quand j'étais jaloux, que souffrance. » Voilà donc vos deux options possibles en matière amoureuse. Le désir serait donc le paradoxe dans lequel se meut la vie humaine, l'étoffe gênante dans laquelle celle-ci serait taillée. Il se nourrirait de distance et de mystère, mais il voudrait en même temps posséder son objet, en percer le mystère, faire de l'autre un moment de lui-même. On ne désirerait vraiment, au bout du compte, que la lune. D'où l'inscription du désir dans une polarité, et là j'en viens progressivement à Deleuze, qui traversera toute l'histoire de la pensée occidentale. D'un côté, a-t-on tendance à penser, le désir tend vers sa propre satisfaction, ou vers un objet dont la possession est synonyme de jouissance. D'un autre côté, le désir participe d'un manque, et c'est seulement dans la mesure où l'être humain en prend conscience qu'il devient un sujet désirant. Ainsi, Descartes écrit-il dans sa troisième méditation métaphysique, « Car comment serait-il possible, je cite, que je puisse connaître que je doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me manque quelque chose, si je n'avais en moi aucune idée d'un être plus parfait que le mien, par la comparaison duquel je connaîtrais les défauts de ma nature. » Fin de citation. Or, ce qui manque à chacun, c'est précisément l'union ou la réunion avec l'objet du désir, la possession et la jouissance de l'autre, qui est en réalité la réunion avec soi-même. L'identité à soi ou l'être auprès de soi par-delà le moment du désir, c'est-à-dire par-delà la séparation d'avec soi. Narcisse, pourrait-on dire, par-delà tout narcissisme, image éternelle du désir qui recule à mesure qu'il avance et se dérobe à mesure qu'il se cherche. Si on avait plus de temps, on pourrait faire appel ici à un certain nombre de textes qu'on pourrait qualifier de scènes archaïques du désir. Je pense à Platon et à l'amour, à la scène que nous décrit Aristophane dans son mythe, ou bien, évidemment, à tel ou tel texte biblique, à la Genèse en particulier. Comment se demande-t-on alors parvenir à s'extraire de ce cercle vicieux, de ce désir qu'on pourrait dire narcissique? Par la recherche toujours plus frénétique du plaisir, ou bien par la suspension du désir? Par l'hédonisme, ou bien par l'ascétisme? Jouissance et abstinence seraient ainsi les deux extrêmes entre lesquels oscillerait le pendule du désir et le cadre dans lequel, de fait, la pensée, la religion et la mythologie occidentale se sont évertuées à le concevoir, et même à se poser la question de son origine. Elles y ont vu, le plus naturellement du monde, le signe d'une déficience, voire d'une malédiction et d'une responsabilité. Si nous naissons ainsi rivés au désir et avons tant de mal à nous arracher à son empire, n'est-ce pas parce que nous la méritons? N'a-t-il pas fallu que nous ayons commis quelques fautes et provoquer les dieux pour être ainsi punis. Le désir, dès lors, ne serait-il pas la marque indélébile de notre imparfaite condition? Ou serait-il au contraire, à l'image d'un regard échangé, le signe d'une vitalité débordante et intarissable? Ne pourrait-on voir dans la distance qui me sépare de l'autre et dans cet élan qui toujours me porte au-delà l'occasion d'une gloire, la voie d'une nouvelle souveraineté et la source de toute joie? C'est cette dernière voie, éminemment spinoziste, que privilégie Deleuze. Mais elle suppose une critique en profondeur de la première, que Deleuze met en place dans une période qui s'étend, je dirais grosso modo, de 1968 à 1975, c'est-à-dire de l'apparition du livre sur Spinoza, et évidemment aussi des différences et répétitions, jusqu'au livre écrit avec Guattari sur Kafka, en passant évidemment par l'anti-Oedipe, qui date de 1972. Je passe donc à ce moment critique, à cette critique de ce qu'on pourrait appeler une certaine morphologie occidentale du désir, dont Deleuze s'empare et critique à différentes reprises. Comme vous savez peut-être, ou certainement, Deleuze se réclame explicitement de la critique et de son acception kantienne en particulier. Mais, évidemment, qu'il transforme en profondeur. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans le sens où Kant effectue une critique des facultés, ou une critique des pouvoirs ou des puissances, hein, Kraft ou Vermögen en allemand, de la subjectivité. Une critique de l'usage légitime et illégitime des facultés en question, ou comme il le dit lui-même, de leur analytique d'un côté, de leur dialectique de l'autre. La critique en ce sens-là est une métaphysique, ou, pour être plus précis, et comme Kant le disait lui-même, une métaphysique de la métaphysique. De ce point de vue, Deleuze lui-même se réclame de la métaphysique et écrit à Villani « Je me sens pur métaphysicien ». C'est cette critique et cette clinique des facultés que Deleuze met en place dans différences et répétitions, ainsi, j'y reviendrai dans un instant, que dans l'anti-Oedipe. Donc je crois qu'il y a une sorte de fil conducteur, si vous voulez, qui mène d'un livre à l'autre. Mais on se demande évidemment pourquoi il faut une nouvelle critique, et une critique de la critique kantienne. Si Kant fait une critique de ses facultés, et une critique de la faculté de désir, comme on va le voir, pourquoi effectuer cette critique de la critique kantienne? Eh bien, pour faire vite, je dirais que Deleuze fait à l'encontre de Kant une double critique, ou un double grief. D'une part, si la critique kantienne pose les bonnes questions, à savoir, qu'est-ce qui distingue l'usage légitime ou immanent des facultés d'un usage illégitime ou transcendant des facultés? Si la critique kantienne pose les bonnes questions, elle s'en tient, nous dit Deleuze, à une conception dogmatique de ce qu'il appelle l'image de la pensée, c'est-à-dire de ce que penser signifie, en s'alignant sur les forces du bon sens et du sens commun, c'est-à-dire sur le jeu harmonieux et somme toute ordinaire des facultés qui mène et ne mène jamais qu'à la reconnaissance. Ceci est une bouteille, bonjour tête, 2 plus 2 font 4, etc. Donc la critique de Deleuze de toute cette métaphysique, si vous voulez, des facultés, consiste à dire on rate l'essentiel, c'est-à-dire dans le fond, on ne s'intéresse qu'aux facultés dans la mesure où elles se combinent en une sorte de jeu harmonieux, mais ce jeu harmonieux ne peut jamais nous donner que l'ordinaire. Or moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'extraordinaire, quand je dis moi, c'est Deleuze, c'est-à-dire le singulier, le remarquable, etc. Donc, toute la question va être de savoir comment arriver au moment où chaque faculté révèle ce qu'elle peut d'extraordinaire ou de remarquable ou de singulier. Par ailleurs, et cet aspect est lié au premier que je viens d'évoquer, la critique kantienne s'en tient au plan d'une déduction des principes et des faits de la raison pure, ça c'est le vocabulaire de Kant, sans jamais parvenir au point de vue génétique, qui permet de rendre compte de l'existence des facultés elles-mêmes, c'est-à-dire de la production des facultés elles-mêmes. Et de ce point de vue, Deleuze pense que c'est en effectuant un retour à l'empirisme et en se constituant en empirisme transcendantal, c'est apparemment une contradiction dans les termes, parce que, évidemment, Kant oppose le transcendantal et l'empirique, que la philosophie devient véritablement critique. Voilà, donc, ça c'est le retour de Hume au-delà de Kant. Tu vois. Quelle est la place du désir dans cette critique ? Eh bien, c'est une place centrale. Pour Deleuze, le désir est à la fois une faculté ou une puissance et la faculté première ou fondamentale. Donc si cette place est une place centrale, c'est que la faculté de désir est en fait beaucoup plus qu'une faculté. Je m'explique. Dans Différence et répétition, un texte difficile, comme vous le savez, au chapitre 3 en particulier, Deleuze passe en revue un certain nombre de facultés. Alors la sensibilité, la mémoire, l'imagination, la pensée, etc. Afin de montrer comment chacune peut révéler ce qu'il appelle son exercice transcendantal, savoir sa limite, celui par où elle éveille ou elle révèle un seuil ou une limite, indice de ce dont elle est capable. Et c'est ça qui est très important, c'est de quoi les facultés sont-elles capables, jusqu'où peuvent-elles aller. Et la critique qu'il fait de Kant est qu'évidemment, Kant n'a jamais en vue ses facultés que dans un domaine extrêmement restreint, extrêmement limité. Et donc, cette question ne peut jamais se poser sous le régime ordinaire ou dogmatique auquel la philosophie l'a relégué. Si on prend le cas de l'imagination, par exemple, la question que Deleuze pose, c'est dans la mesure où, dans la critique de la raison pure, l'imagination sert de médiation entre une faculté d'intuition et une faculté d'entendement, entre une intuition et un concept, l'imagination ne sert justement que de médiation et ne se révèle pas dans toutes ses capacités. Si on passe à la critique du jugement, on s'aperçoit, et surtout dans l'analytique du sublime, on s'aperçoit que l'imagination est capable de beaucoup plus et de bien autre chose. Et c'est ce moment-là qui intéresse Deleuze. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre 3 de Différence et répétition, il n'est pas question de cette faculté essentielle dont parle Kant dans toute sa philosophie pratique, dans toute sa philosophie morale. Tant empirique, c'est-à-dire tant dans son application, qu'en tant que métaphysique des mœurs ou, comme il le dit, critique de la raison pure pratique. Et ça, c'est évidemment la faculté de désirer. Donc je passe à cette faculté de désirer chez Kant dans un premier temps, afin de passer à Deleuze dans un second. Ce qui intéresse Kant avant tout, c'est de montrer comment, dès lors que l'on envisage la faculté ou la puissance de désir du point de vue pur pratique, c'est-à-dire comme volonté déterminée par nulle autre cause que la forme de la loi de la raison, le désir s'avère libre. Par quoi il faut entendre, c'est ce que prétend Kant, libre de tout sentiment de plaisir et de peine. Libre de tout objet empirique, nécessairement lié au sentiment en question. Il y a bien, nous dit Kant, un objet ultime, oui, de la raison pratique, qu'il appelle le souverain bien, défini comme la vertu accompagnée de bonheur, mais, ça c'est l'illusion dans laquelle tombe la raison pratique elle-même, cet objet ne détermine jamais le désir, donc n'est jamais cause du désir lui-même. Et ça c'est ce qui ressort aussi bien de la critique de la raison pure, pratique, que de la métaphysique des mœurs. Alors, à nouveau, il faut nous demander pourquoi une nouvelle critique du pouvoir de désirer doit faire suite à la critique kantienne. Pourquoi critiquer cette critique de la faculté de désir ? Eh bien, cette critique du désir, Deleuze l'effectue pour une part dans le livre sur Spinoza, dont je parlais, mais surtout dans l'Anti-Oedipe et le Kafka, bref, dans cette période, encore une fois, qui s'étend de 68 à 75. On peut la résumer ainsi. Certes, et ça c'est un apport fondamental, Kant fait de la faculté ou du pouvoir de désirer le point d'ancrage ou la clé de l'éthique au sens large. Ça, c'est quelque chose que Deleuze retiendra de cette façon. Certes, il fait de cette faculté une critique, y compris dans sa dimension dialectique, c'est-à-dire dans sa tendance profonde à faire du bonheur, hein, plutôt que de la vertu, la cause finale de notre désir et la condition de notre action morale. Et donc à confondre la condition et le conditionné. Certes, et c'est la conséquence de ce que je viens d'énoncer, Kant arrache l'analytique du désir au schème à double entrée dans lequel il était jusque-là inséré, celui que j'évoquais dans mon introduction, à savoir la représentation d'un manque d'un côté, la satisfaction ou la jouissance de l'autre. Donc ce que permet d'une certaine façon la critique de la raison pratique, c'est d'arracher le désir à cette double entrée, si vous voulez, cette entrée, cette sortie, le manque d'un côté et la satisfaction de l'autre. Mais, et c'est là que le moment critique intervient, critique de la critique, le prix que Kant paye est exorbitant. À savoir, le désir pur ou vertueux, c'est-à-dire, pour Kant, la liberté ou la volonté libre de toute inclination, n'est envisageable qu'à la condition de rompre avec le plan de la nature, le plan d'une causalité immanente, et s'inscrire dans une causalité parallèle. Ce faisant, il introduit ou réintroduit la transcendance dans l'immanence du désir sous la forme de la loi morale, avec un L majuscule. Or, la liberté et la loi morale, c'est désormais un Deleuze spinoziste qui parle, sont au même titre que le manque, les illusions ou, pour utiliser le terme technique de Kant, les paralogismes de la pensée dès lors qu'elle s'intéresse au désir. C'est la morale elle-même, en tant que théorie du devoir et de la volonté, qui est une illusion. Alors ça, évidemment, c'est une grosse critique, de dire que la morale elle-même relève de l'illusion. L'anti-Œdipe vise les paralogismes en question, mais en tant qu'ils animent et étouffent en même temps la psychanalyse. Faute ou crime, selon Deleuze et Guattari, d'autant moins pardonnable que Freud avait découvert ce continent élargi du désir, lesté du poids de la représentation, qu'est l'inconscient. Ainsi, souder le désir à une loi. Et donc on voit bien dans leur critique de la psychanalyse, le penseur, le psychanalyste qu'ils ont en ligne de mire, plus encore que Freud, c'est Lacan. Et c'est le Lacan, évidemment, c'est le Lacan kantien, si vous voulez. Ainsi, souder le désir à une loi et assigner un manque à chaque position de désir, hein, Lacan, si vous voulez, désirer, c'est la définition de Lacan, enfin, une, désirer, c'est manquer. Lacan, ça ne fait aucun doute. Hein. C'est se rendre coupable, donc souder le désir à une loi, c'est se rendre coupable du paralogisme qu'ils appellent d'extrapolation, par lequel ce qu'ils appellent un signifiant despotique ou objet complet transcendant est extrait de la chaîne signifiante. Enfermer le désir dans la double impasse de l'imaginaire et du symbolique, ça c'est évidemment Lacan dont il s'agit, c'est se rendre coupable du paralogisme de la double prise, alors c'est un terme qu'ils empruntent au catch, ou du double bind, et manquer le désir réel. C'est-à-dire, et alors pour Deleuze et Guattari, le désir réel, par opposition au désir imaginaire ou symbolique, c'est le désir qui relève d'une logique de la production, plutôt que de la représentation ou de la reconnaissance. Rabattre les investissements libidinaux, sociaux, historiques, matériels, sur le schème bourgeois, papa, maman et moi, c'est succomber au paralogisme de l'application. J'en mentionne trois, mais il y en a deux autres, je les laisse de côté. La critique du désir ainsi constitué se nomme schizoanalyse. Ça, c'est la réponse de Deleuze et Guattari à la psychanalyse, c'est la schizoanalyse. Là, je cite l'anti-Œdipe. La schizoanalyse est à la fois une analyse transcendantale et matérialiste. Donc ça, évidemment, c'est la différence avec Kant, si vous voulez. Elle est critique en ce sens qu'elle mène la critique d'Œdipe ou mène Œdipe au point de sa propre autocritique. C'est toujours Deleuze et Guattari qui parlent. Elle se propose d'explorer un inconscient transcendantal au lieu de métaphysique, matériel au lieu d'idéologique, schizophrénique au lieu d'œdipien, non figuratif au lieu d'imaginaire, réel au lieu de symbolique. Fin de citation. Alors Deleuze et Guattari ont tendance à s'attarder sur le premier paralogisme, celui du manque, duquel d'ailleurs découlent tous les autres, et condamner de ce fait les illusions du manque, de la loi et du signifiant, qui trahissent la critique du désir en idéalisme et dans ce qu'ils appellent une pieuse conception de l'inconscient. Alors pourquoi pieuse? Eh bien parce qu'elle reconduit la très ancienne et, disent-ils, théologique conception du désir en tant qu'assignée à une insuffisance d'être et une culpabilité. C'est ce dont je voulais parler dans cette brève introduction. Parce qu'elle injecte, si vous voulez, c'est une autre façon de le dire, de la transcendance dans le flux d'immanence. On en voudra pour preuve le fameux, encore une fois, « désirer, c'est manquer » de Lacan. Certes, il n'y a pas que la psychanalyse qui culpabilise le désir. Mais pourrait dire que la psychanalyse enfonce le clou en inventant un nouveau prêtre, le psy, et un nouveau signifiant, l'Œdipe. D'où la tâche de la schizoanalyse, désœdipianiser le désir, défaire les croyances ou illusions, afin d'arriver au réel, au pur réel, soit à la production de ce qu'ils appellent les machines désirantes. Or, il faut pour ce faire revenir en arrière et partir de cette idée très simple, et pourtant difficile à accepter, que le désir ne manque de rien. Ou, ce qui revient au même, ne naît pas de la réalisation que tel objet, un objet réel, un objet possible ou un objet symbolique, vers lequel il serait tout entier tendu, lui ferait défaut. Comme le dit justement Clément Rosset, chaque fois qu'on insiste sur un manque, dont manquerait le désir pour définir son objet, et là je cite Clément Rosset, le monde se voit doublé d'un autre monde, quel qu'il soit, à la faveur de l'itinéraire suivant. L'objet manque au désir. Donc, le monde ne contient pas tous les objets, il en manque un au moins, celui du désir. Donc, il existe un ailleurs qui contient la clé du désir, dont manque le monde. Fin de citation. Dès lors qu'on pose le désir comme orienté vers quelque chose d'autre que lui, plutôt que comme cette puissance qui produit son propre objet, on l'entraîne d'ores et déjà dans la pente de la transcendance ou de ce que Robert Misrahi appelle l'illusion objectiviste. Cette illusion nous fait croire que les objets et les êtres sont désirables en eux-mêmes, comme si le bien ou la valeur qu'ils recouvraient était extérieure au désir qui les détermine. Or, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, ça c'est la définition de Spinoza si vous voulez, mais parce que nous la désirons que nous la disons bonne. C'est toujours, autrement dit, soi-même qu'on vise dans le désir, non au sens d'un narcissisme ou égoïsme primordial, mais au sens où le désir désigne la tendance que nous avons à persévérer dans notre être, pour employer encore la terminologie spinoziste, à vivre plus et mieux. Le but de l'activité humaine est non seulement de conserver la vie, mais de l'accroître par tous les moyens, c'est-à-dire par une intensification de notre sensibilité, de notre intelligence et de notre connaissance. En clair, cela signifie qu'il n'y a pas de valeur qui soit transcendante au mouvement même du désir qui la pose. Il n'y a pas de mal ou de bien en soi. Il n'y a pas d'objet transcendantal égal X, ou, pour employer la terminologie lacanienne, d'objet petit a, du désir. Il n'y a pas, si vous voulez, genèse du désir par défaut d'être, mais il y a plutôt une genèse du désir par un excès d'être, ou genèse de l'être même par le désir. Le désir n'est pas avant tout désir de quelque chose, mais il est quelque chose. D'où l'insistance de Deleuze et Guattari sur la dimension productive du désir plutôt que représentative. Le désir est quelque chose, soit l'expression d'une quantité et encore plus d'une intensité d'être, ou bien encore, comme le dit Spinoza, d'un degré de puissance. Le désir n'est pas désir de pouvoir ou de justice, comme le disent Deleuze et Guattari dans le Kafka, c'est le pouvoir lui-même qui est désir, c'est la justice qui est désir, c'est-à-dire l'organisation des rapports sous lesquels les corps se rencontrent et s'agencent. Dès lors, la question du pouvoir et celle du désir semblent s'imbriquer l'une dans l'autre, sans pour autant, en tous les cas pour Deleuze et Guattari, jamais se confondre. Du moins si l'on définit le pouvoir comme capacité à faire faire ou gouverner, c'est-à-dire comme capacité à affecter un corps. Comment enchaîner tel corps ou telle puissance d'agir à tel autre, le corps du souverain, du marché, de l'église, du parti, etc. Comment, pour reprendre le vocabulaire du Foucault de Deleuze, intégrer ces singularités que sont les rapports différentiels de pouvoir ? Par le jeu de quels facteurs intégrants, de quelles opérations et institutions ces rapports sont-ils alignés ? Par l'État, certes, pense Deleuze et Guattari, mais aussi par la famille, la religion, le marché, l'art lui-même, la morale. Il n'y a que des intégrations ou agencements de désirs. La pensée, l'art, l'amour et l'amitié, la politique aussi parfois, sont de tels agencements. Partant de là, dire que la chose en question se donne comme manque et que le désir naît d'une déficience plutôt que d'une puissance ou d'une modalité de l'être n'a tout simplement plus de sens. Le manque, autrement dit, n'est jamais premier. Ça, c'est la réponse de Deleuze et Guattari à toute cette morphologie occidentale du désir que j'ai introduite dans un premier temps. Le manque est toujours construit, il est toujours imposé, il est toujours organisé. Et nulle part mieux que dans et par aujourd'hui, pourrait-on dire, le marché. Un ancien directeur du General Motors Research Lab ne le définissait-il pas comme, je cite, « la création organisée de l'insatisfaction ». Le marché comme création organisée de l'insatisfaction. S'étonnera-t-on que ce manque se traduise par toujours plus de production ? Il s'agit donc bien, comme le remarquent Deleuze et Guattari, là je cite Mille Plateaux, d'organiser le manque dans l'abondance de production, ou bien encore, disent-ils, de faire basculer tout le désir dans la grande peur de manquer. Le consommateur, pourrait-on dire, porte en lui son désir comme un trou noir où la production mondiale s'engloutit et se vide à mesure qu'il se remplit. C'est que ce désir se nourrit de choix qui lui donnent le vertige, le mine et le sape, le vide à mesure qu'il se multiplie. Chaque arbitrage garantit, nous disent les économistes, par la rationalité efficiente d'un agent économique, toujours mieux informé et toujours plus performant, génère son lot d'angoisse et rapproche un peu plus l'homo economicus de l'overdose. Vous me direz, il faut bien crever de quelque chose au bout du compte. Mais qu'importe la forme que prend le désir manque, il s'agit toujours d'un plan de transcendance et c'est toujours cette diminution de la vie qu'il vise. Or, comme le dit Spinoza, nul moyen de gouverner la multitude n'est plus efficace que la superstition. Celle-ci étant essentiellement, dit-il, causée par la crainte, et avant tout la crainte de manquer, et tirant donc son origine, non de la raison, dit-il, mais de la sensibilité sous sa forme la plus passionnée. Ça, dirons-nous, c'est pour le côté négatif, clinique ou destructeur, pour le curetage ou le récurage, si vous voulez, de cette faculté ou puissance de désirer. Pour le côté positif ou constructif, il faut se tourner peut-être vers à nouveau Spinoza. Et en se tournant vers lui, on retourne la faculté de désir elle-même. Elle n'est plus, comme je l'annonçais auparavant, elle n'est plus une faculté parmi d'autres, mais elle est la faculté fondamentale. En ce sens qu'elle enveloppe toutes les autres, elle est la puissance humaine en tant que telle. Deleuze et Guattari écrivent dans l'Anti-Oedipe, « Le désir n'est pas signe de loi, il est signe de puissance. » Ou bien encore, ça c'est Deleuze dans son livre « Spinoza, philosophie pratique », toute l'éthique, l'éthique de Spinoza, se présente comme une théorie de la puissance, par opposition à la morale comme théorie des devoirs. Donc ça, c'est le point maximal d'éloignement par rapport à Kant. Et le désaccord fondamental portant sur la faculté de désir. Ce qui est premier ou inconditionné, ce n'est pas la volonté libre, c'est-à-dire soumise à la seule autorité de la loi morale, comme le prétendait Kant, mais c'est le pouvoir ou le droit, entendu comme la puissance. La question éthique n'est donc pas « que dois-je faire ?» ça c'est la question de Kant, si vous voulez, mais « que puis-je faire ?» C'est-à-dire, de quoi mon corps et ma pensée sont-ils capables ? Jusqu'où peuvent-ils aller ? C'est une affaire de puissance, c'est-à-dire des affections qui nous caractérisent dans une situation et un moment donné. Ces affections sont-elles actives ou sont-elles passives ? Sont-elles tristes ou sont-elles joyeuses ? Nous rapproche-t-elle de notre puissance et donc de la vertu, ou au contraire, nous en éloigne-t-elle? Or, ces questions ne peuvent que mener à cette autre question, qui est l'occasion d'un franchissement de la ligne de partage entre critique transcendantale et, pour reprendre un terme plus foucauldien, critique du présent. D'où viennent ces affections qui me caractérisent? D'où viennent ces agencements dans lesquels je suis pris? Quels intérêts et quelles autorités servent-ils? Dans quel rapport de pouvoir mon désir est-il pris et comment peut-il s'en dégager? Le but, dès lors, de la pensée comme de l'action est de libérer la vie en vue du déploiement de sa propre puissance. Je finis par quelques mots de conclusion. On a donc tort de faire du désir une défaillance et de son inquiétude une imperfection. On a tort d'introduire le jugement dans l'être et de confondre ce qui, à l'homme, échoue avec ce par quoi il déchoit. Le défi que relève Deleuze est celui d'une vie désirante et cependant joyeuse, d'un désir inévitable parce qu'essentiellement vital. Il s'affirmera dès lors comme ce lot qui nous revient et auquel, oui, nous ne pouvons nous soustraire. Mais il s'affirmera aussi et dans le même temps comme ce qui donne à la vie son sel et son éclat. Car désirer, c'est vivre. Non au sens d'une vie qui ne serait que survie et qu'on ne ferait que subir, mais au sens de la vie qu'on agit pleinement. C'est par le désir que nous sommes en vie. C'est par lui que, s'arrachant au seul impératif des besoins vitaux, la vie s'excède et se prolonge en un plus de vie, une vie luxueuse et libre, bref, pour emprunter cette fois-ci un terme à Derrida, une survie. Mais c'est aussi par le désir que la vie se retourne contre elle-même, se nuit, se trahit et s'amenuise. Si par le désir la vie parvient à se dépasser elle-même, à atteindre des sommets et des degrés de raffinement que, s'ils se souciaient de nous un instant, les dieux eux-mêmes nous envieraient, elle parvient aussi à donner d'elle-même un spectacle qui donnerait aux bêtes la nausée. C'est entre ces deux extrêmes que se déploie la vie dite humaine. Du désir, on dira qu'il révèle le sens d'être de l'homme, non comme une présence ou une identité à soi perdue et dont la nostalgie de laquelle il ne cesserait de vivre, comme une conscience malheureuse et responsable de son malheur, non comme l'épreuve nécessairement douloureuse de la différence, c'est-à-dire d'une séparation de soi et de son objet, non autrement dit comme une pulsion narcissique, mais comme cet écart, cette distance ou bien encore cette faille qui signale un excès plutôt qu'un défaut, une chance plutôt qu'une malédiction. On dira qu'il est l'expression et l'épreuve, mais en un sens tout positif, d'une différence aussi originaire qu'innocente. Sous l'emprise du grand désir, on ne peut jamais se dire comblé, non parce qu'on serait frustré ou qu'il manquerait toujours quelque chose, mais parce que le désir ne manque jamais de rien. Et s'il n'y a pas de vide, s'il n'y a pas de manque nommé désir, c'est parce qu'il n'y a pas de plénitude perdue ou de plénitude à venir. Il n'y a pas de terre promise à rejoindre. Ou pour être plus précis, le manque, le vide, la négativité sont des constructions, des illusions et des superstitions que certains pouvoirs, afin de produire ou maintenir leur emprise, ont intérêt à entretenir. Mais au départ, il y a seulement la griffe du désir, avec ses mouvements, ses soubresauts et ses convulsions, que nous recueillons par la pensée et par le corps, mais aussi par l'art, l'amour et l'amitié. Une inquiétude, une ligne de crête donc, mais par lesquelles s'affirme la vie et s'ouvre le monde. Cette inquiétude est notre demeure, cet écart est notre destin. Il nous faut donc apprendre à les célébrer. Je vous remercie.
Objection de critique, critique de la critique de la critique. C'était brillant, merci infiniment. Je me demandais donc, Nietzsche, dans votre présentation, ne surpasse seulement comme une allusion à un choc de l'humain. Et donc, et j'imagine que vous allez faire le temps de découvrir, mais je crois que c'est une étape essentielle entre Kant et Deleuze. Et donc, est-ce qu'on pourrait même imaginer que Nietzsche avait beaucoup déjà contribué à cette idée d'une critique de Kant? Et donc, est-ce que c'est une étape nécessaire? Est-ce qu'on peut s'en passer? Quelle serait la différence entre Deleuze et Nietzsche?
Oui, merci. Ou plutôt peut-être entre Nietzsche et Spinoza. Et d'ailleurs, Deleuze part toujours de ces deux philosophes. ceux dont il se sent le plus proche, mais en disant qu'au bout du compte, celui qu'il porte dans son cœur, c'est Spinoza. Et la façon dont il lit Nietzsche est même très spinoziste. Donc si on prend un concept fondamental, qui est celui de la volonté de puissance, évidemment, la notion encore schopenhauerienne de volonté est précisément, et donc kantienne, est précisément celle que, je crois, Deleuze voudrait écarter, gommer, et retenir celle de puissance. Et au fond, je crois qu'il trouve chez Spinoza, dans la notion de conatus, tout ce qu'il y a à trouver. Donc on peut se dire, est-ce qu'il ne lit pas aussi Spinoza avec Nietzsche? Oui, je crois que c'est le cas. Mais ce que Nietzsche lui permet de faire, aussi lu au travers de Spinoza, je crois, c'est une plongée véritable dans cette notion de puissance. Évidemment, qui du côté nietzschien nous amène à un vocabulaire, à une forme de vitalisme et à un vocabulaire des instincts, des pulsions, qui est d'une certaine façon celui dont, je crois, au bout du compte, Deleuze voudrait aussi s'écarter. C'est-à-dire, ce vocabulaire des instincts et des pulsions, pour lui, ne suffit pas à rendre compte des mécanismes de désir. Donc il y a une forme, je crois, de vitalisme chez Nietzsche qui est à la fois intégré et en même temps, je crois, dépassé au travers de Spinoza. Donc oui, c'est une étape essentielle. Oui, je crois que Nietzsche est toujours là, dans l'ombre, plus ou moins, mais au bout du compte, pour ce qui est de cette notion de désir, j'ai toujours eu l'impression que Spinoza a été la référence la plus déterminante. Merci.
Paul. Miguel, je te remercie, c'était très intelligent et spectaculaire, très clair. Et tu as divisé ton exposé en deux parties. La première partie a une critique de la critique kantienne, et ensuite tu as abordé un versant positif, constructionniste, tu as dit, du désir. Et je veux faire deux remarques, la remarque concerne la première partie de mon exposé, c'est-à-dire le versant critique, où il m'a semblé que peut-être maintenant que Deleuze est mort, maintenant que ce livre a 30 ans ou 40 ans, on pourrait quand même commencer à se poser la question de savoir si le Lacan dont il parle est le vrai Lacan. Parce que, si tu veux... Lacan est véritablement le penseur de l'absence d'objet de perte. Enfin, voilà, il n'y a pas de paradis perdu. Il n'arrête pas de le dire, et toute la construction du désir repose justement sur. Alors, il ne faut pas se leurrer sur le mot de manque, parce que le manque, c'est précisément le manque de rien. Le manque, c'est ça. Donc, je tiens un peu. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut faire attention avec cette utilisation de Lacan et de la loi, etc. Parce que, au fond, maintenant, on peut se dire que c'était peut-être comme une sorte de béquille rhétorique que j'enfonçais le clou, mais que les grands penseurs de cette période-là étaient tous finalement à l'unisson les uns des autres pour justement ne pas inscrire le désir dans une structure de manque. En fait, ils sont tous anti-schopenhauerien. Bon. Alors ça, c'est une première remarque. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Et la question que je voulais poser sur le versant constructif du désir, c'est qu'il me semblait que chez Deleuze, il y avait une réélaboration d'une théorie du désir à partir de la multiplicité. Et c'est un mot que tu n'as pas prononcé, je voudrais que peut-être tu nous dises ce que tu en penses. C'est que pour le désir, il est toujours branché sur une expérience de multiplicité. Et c'est d'abord cela que le mot d'agencement signifie. C'est-à-dire qu'il prend l'exemple de Proust sur la plage. Le narrateur éprouve un désir pour les jeunes filles en fleurs, il voit une fille, et puis en même temps, ce qu'il désire en elle, c'est un ensemble.
vient déjouer justement la captation du désir par un seul objet. Et c'est précisément parce qu'il y a excès qu'aucun objet unique ne peut satisfaire le désir. Il est toujours pris dans une pluralité, dans une multiplicité qui déborde justement la satisfaction elle-même, puisque la satisfaction ne peut arriver que d'un objet en particulier, alors que cette unicité est déjà déjouée dans l'expérience de la pluralité qui est celle du désir. Alors, est-ce que... Est-ce...
Merci. Alors, je vais commencer par le second point, parce qu'on est d'accord. Absolument. Et il y a donc, vis-à-vis de la lecture de Proust, une double lecture possible, parce qu'évidemment, Proust fait le constat, de cette façon, de cette impasse du désir, et en même temps, propose une autre conception du désir, qui est précisément celle que tu veux, et dont s'empare Deleuze. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Alors, à partir de là, on pourrait aller plus loin sur le concept de multiplicité de lui-même, qui peut être lu à un niveau extrêmement technique aussi, et qui renverrait aussi à cette critique des facultés, dans la mesure où ce qui définit une multiplicité pour Deleuze, c'est l'expérience de la singularité, c'est-à-dire de la capacité de composer des points singuliers de son corps ou de sa pensée avec des points singuliers du corps ou d'une pensée d'un autre ou d'une autre, et qui, justement, contourne entièrement l'organisation, pourrait-on dire, normale ou ordinaire de ces agencements. Donc le désir, de ce point de vue-là, est éminemment productif et suppose toujours, et principalement, et d'emblée relationnel. Donc là, je suis entièrement d'accord, il n'y a pas un sujet du désir qui est défini a priori par un trou, un manque, qu'il faudrait parvenir à combler, mais il y a la capacité, et le terme de capacité est évidemment celui qu'il faut entendre dans le terme de faculté aussi, la capacité à générer des agencements en fonction de singularités qui nous habitent et qu'on ne découvre jamais qu'au travers de ces rencontres. Le terme de rencontre est très important. Donc tous ces termes-là, agencement, rencontre, sont presque des termes synonymes, des termes de désir. D'ailleurs, il parle parfois d'agencement désirant. De plus en plus, d'ailleurs, dans le milieu, il est moins question de désir et plus question d'agencement. Je crois qu'il s'agit toujours de la même chose. Donc, sur cette question-là, on est d'accord. Alors, sur Lacan, moi, je me suis beaucoup posé cette même question-là. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à lire, je dirais, un Lacan qui, des premiers écrits jusqu'au début des années 60. Je ne suis pas allé au bout de là. Donc, on me dit toujours, mais il se passe beaucoup de choses après ces années-là. Mais tout de même, il n'y a pas effectivement de manque d'objets, c'est-à-dire au sens empirique, mais il y a toujours cet objet transcendantal qui se définit aussi par son aspect fuyant et manquant. Et donc, le désir se structure tout de même chez ce Lacan-là comme par un manque. Et ce qui me frappe d'autant, c'est, alors évidemment, tout dépend du point qu'on accorde à ce texte en particulier, ce séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, mais ce qui me frappe absolument, c'est la solution que semble adopter Lacan dans ce cours, c'est la solution kantienne, c'est-à-dire c'est la volonté, le désir dans son expression la plus pure. Ce serait précisément celui qui serait sans objet, et celui qui est sans objet, c'est la volonté libre de Kant. Donc là, je trouve qu'il y a dans ce séminaire-là, il y a un retour de la loi morale, mais avec un L majuscule, qui est absolument frappant et qui me semble régressif, même par rapport à certains textes de Freud. Donc à la limite, moi, je préférais pousser plus certains textes de Freud contre Lacan que de m'engouffrer dans ces voies-là. Mais je serais très heureux d'en prendre une position différente et critique. Donc, conversation à poursuivre. Je te remercie.
C'est juste une demande d'une citation. Comment, vers la fin, tu as évoqué le nom de Derrida au sujet de la survie. Oui, oui, oui. Alors, comment ça s'articulerait avec Deleuze? Pourquoi cette évocation à ce moment-là?
C'était juste parce que le terme lui-même. Voilà.
C'est seulement le terme, parce que je ne vois pas très bien.
C'était juste le terme, mais voilà, comme c'est un terme. En tout cas, moi, je ne c'est pas qui avant lui l'aurait utilisé comme ça, c'est pour ça que je
ça ne faisait pas parce que